Daniel, Daniel, t'es là? Non, c'est la grève? Oui, je travaille dans une grande entreprise nationale ferroviaire, on nous a rien dit, on aurait débrayé. Allez, on vous soutient. Aïoli, c'était Antoine à Grenoble.
Allô, bonjour. Et voilà, je suis un auditeur fidèle de France Inter et des stations de Radio France en général. Et je voulais vous apporter mon soutien et vous dire combien vous nous êtes important. Et quand vous n'êtes pas là, c'est le vide. Parce que je vais sur d'autres fréquences et je ne tiens pas plus de 5 minutes. Voilà. Et j'espère que Philippe Val ne sera pas désigné. Mon nom, c'est Amara. Je vous souhaite bon courage à vous. Au revoir.
Quand le pouvoir en place va mal, que les réalités sont mises à nu, que les gens commencent à réfléchir et se réveillent, l'éternelle recette pour entrer le troupeau au bercail, c'est gesticuler et la peur, faire peur, brouiller les cartes. À Strasbourg, tandis que les manifestants paisibles étaient étouffés, un quartier brûlait tranquillement tout l'après-midi pour les caméras et les médias. Quand finirons-nous par comprendre? Le capitalisme nous dépose une béquille dans notre berceau pour nous faire oublier que nos parents nous ont donné deux jambes et un cerveau. Quand nous mettrons-nous debout?
Monsieur Besson, qui était l'invité de France Inter ce matin, a oublié de dire que la mondialisation, l'ultralibéralisme, est une des causes du départ de quantité de personnes de leur pays pour trouver ailleurs de quoi vivre. Hier soir, sur Arte, Jean Ziegler expliquait comment l'Europe pillait l'Afrique. J'espère que beaucoup d'auditeurs ont regardé, parce que c'était vraiment intéressant, mais très triste. Et je voudrais rajouter que France Inter et France Culture, vous êtes vraiment différents. Je m'en suis rendu compte hier en écoutant Europe 1. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Continuez. Merci beaucoup. C'était Edith du Gros du Roi.
Les paradis fiscaux sont les boîtes noires du néolibéralisme. Pourtant, après le crash de l'économie, personne ne s'empresse pour les ouvrir. C'était Pascal Dumont.
Non seulement c'est un traître, mais en plus c'est un lâche. Éric Besson était l'invité de Nicolas Demorand ce matin. Il a commencé par dire que depuis 65 ans, il n'existe pas de délit pour les personnes aidant des sans-papiers. Et que s'il y avait deux ou trois affaires en cours, elles résultaient de l'intervention du ministère de la Justice et pas du sien. Ça n'est quand même pas très glorieux pour quelqu'un qui, il y a deux jours encore, prétendait qu'il avait des coronesses, des couilles en français. Pour aller arrêter les enfants dans les écoles, leurs parents à la sortie des mêmes écoles, ou dans les hôpitaux, ou chez Emmaüs, en effet, il en faut, monsieur Besson. En demandant aux employés actuellement de Pôle emploi d'être des délateurs, ce à quoi ils se refusent, il en faut aussi. Si c'est ça pour vous en avoir, vous avez une drôle de conception de la virilité. On n'a pas la même, ça c'est certain. J'aimerais être un tout petit peu plus vieux pour savoir ce que vous allez devenir lorsque votre maître ne sera plus au pouvoir. Profitez-en bien maintenant, car même les gars de l'UMP vous détestent. Alors après son départ... Ah si, un petit conseil, un grand conseil même. La place de Jean-Marie Le Pen va bientôt se libérer. Dépêchez-vous d'y postuler. Ça vous ira très bien et vous aurez fait le tour de la sphère politique française avec ce sens de l'honneur qui vous caractérise. Patrick Biloé, Celles-sur-Ours, dans l'Aube.
Bonjour Daniel, bonjour à tous les AMG. Je vous rappelle que demain, mercredi 8 avril, est une journée de mobilisation nationale contre la politique du gouvernement envers les étrangers en situation irrégulière et contre toute personne qui leur viendrait en aide. La loi de finances 2009 fixe en effet à 28 000 le quota des reconduites à la frontière et à 5 500 le quota des interpellations de personnes qui leur seraient donc venues en aide. Aujourd'hui en France, il est devenu criminel d'accueillir, d'accompagner ou seulement d'aider des personnes en situation irrégulière. Si la solidarité devient un délit, nous demandons à être poursuivis pour ce délit. À l'appel de la CIMAD, entre autres, manifestation demain partout en France, tous les horaires et lieux de rassemblement sur délinquants-solidaires.org. C'était Sylvie à Montpellier.
Bah alors, c'est quand même étonnant ça. Ces gens qui ne font pas confiance dans la parole du ministre. Le ministre dit il n'y a pas de délit de solidarité, c'est un mythe, celles et ceux qui manifestent pour cela doivent être rassurés. C'est ce qu'il a dit ce matin sur France Inter, ici même, alors que des associations d'aide aux sans-papiers appellent, vous venez de l'entendre, à manifester dans la journée, toute la journée en France. Alors ça, c'est quand même curieux, parce que c'est quand même un ministre, c'est quand même une personnalité importante. On s'est dit, tiens, c'est curieux, pourquoi est-ce que on lui fait pas confiance? Il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui va pas. Alors voilà, c'est notre sujet du jour, parce que nous, on a des gens qui nous disent, il y a une certaine répression contre ceux qui aident les sans-papiers. Et puis, on s'intéresse aussi à ceux qui aident, parce qu'il y en a beaucoup de Français qui aident les sans-papiers. Et alors, si tous sont d'accord pour être poursuivis, voire même être arrêtés, ben le pays va drôlement souffrir. Et oui, ça nous intéresse donc, c'est notre sujet du jour, vous avez déjà compris. Auparavant, encore d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Radicalité, radicalisation, radicalitude, allez. En prise avec l'actualité, nous adoptons la radicale attitude et nous convoquons le G32 des AMG du Pays Basque et Sutland pour mercredi prochain, le 8 à partir de 20h. Alors G32 parce qu'on est 32 chez les AMG de Bayonne. Donc prochain repère des AMG de Bayonne au Trinquet Saint-André, le 8 à partir de 20h. Et d'ici là, soyons radicaux, ne lâchons rien.
Oui, il y a une rumeur qui court selon laquelle l'Elysée nommerait Christophe Barbier, directeur de l'Express, à la tête de Charlie Hebdo. Voilà, je sais pas ce qu'on pense Charb. Bon, voilà, allez. Ciao, ciao.
Bonjour. C'est le 8 avril 1971, lors du premier congrès de l'Union internationale des Roms, organisé à Londres, que fut proclamé le Romano Dives, ou Jour des Roms. Donc ce 8 avril 2009, on pense aux Tziganes. À Marseille, on organise un festival autour de la culture tzigane, jusqu'au 11 avril d'ailleurs. Ça s'appelle Laccio Divano, le bel échange. Vous avez le programme sur laccio-divano.com. Et puis, voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à ces 32 très jeunes artistes tziganes qui passent ce 8 avril au Zénith à Paris avec le groupe Les Ogres de Barbac. Ah, et j'ai failli oublier aussi un proverbe rome qui peut servir à tout le monde. Je te dis, voici la route, voilà les épines. Toi, marche comme tu veux. Salut.
Salut Daniel, je vais vous faire les prévisions météo du week-end en Algérie. Donc jeudi 9 avril à 8h, ouverture des urnes. Il n'y aura sûrement pas grand monde parce que les gens n'ont pas que ça à foutre. Ils vont plutôt se baigner, à mon avis. 20h, fermeture des urnes. Bouteflika réélu à 99,99%. Il y aura 34 millions de noyés sur les plages qui voudront partir en Europe. Vendredi matin, le nouveau président, élu grâce à Dieu, va faire sa prière sur le chantier de la grande mosquée d'Alger après avoir pris une cuite la veille pour fêter sa réélection. Il s'agit de la mosquée qui va coûter la peau des fesses de tous les Algériens. Vendredi soir, dîner du président avec tous ses amis les bandits et ses collègues les islamistes Ali Ben Hadji et autres, souvenez-vous, autour d'un grand méchoui où on déguste les 34 millions de naufragés. Samedi, le courrier des félicitations arrive de partout dans le monde et surtout par les patrons du G20 et de l'OTAN, ces mêmes gens qui n'arrêtent pas de nous donner des leçons de démocratie, on l'a bien compris à Strasbourg. Finalement, c'est les mêmes dictatures habillées différemment. Dimanche, moi je serai sûrement au marché en train de boire l'apéro et après 80 bières, 12 pétards et 3 merguez, je vais vomir sur le mur du consulat d'Algérie à Lyon pour entamer un deuil de 5 ans. Courage à tous, Salim de Lyon et courage aux Algériens aussi.
Salut, c'est là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet avec Aline Leclerc, Pascal Pascariello, Antoine Chao, les délinquants de la solidarité.
Il n'y a pas de délit de solidarité en France.
Éric Besson.
Toutes celles et ceux qui, de bonne foi,
8 avril 2009,
aident un étranger en situation irrégulière, doivent savoir qu'ils ne risquent rien. Ce ne sont pas des mots, ce sont des faits. En 65 ans, depuis qu'existe ce fameux article L622-1 désormais célèbre, personne en France, personne en 65 ans, n'a jamais été condamné pour avoir simplement, comme je le lis, héberger, donner à manger, transporter en voiture en autostop un étranger en situation irrégulière. Deux bénévoles humanitaires ont été condamnés avec dispense de peine en 65 ans pour être entrés dans ce qu'on appelle la chaîne des passeurs, la chaîne des clandestins. En clair, ils avaient transporté des fonds, ils avaient pris de l'argent des étrangers en situation irrégulière qu'ils avaient apporté à des passeurs. Les juges ont estimé qu'ils avaient commis un délit, et oui, c'est un délit, et en même temps, ils ont été dispensés de peine. Donc, le délit de solidarité n'existe pas. C'est un mythe. Donc, celles et ceux qui manifestent pour cela doivent être rassurés. Ils manifestent contre un mythe.
Alors pourquoi cette journée? Pourquoi cette journée? La fraternité n'est pas un délit. 5500 militants qui aident les sans-papiers le disent aux portes des tribunaux. Aujourd'hui, si la solidarité devient un délit, nous demandons à être poursuivis. C'est toute la journée, vous le savez, vous suivez ça en France. Une sorte de protestation radicale contre la politique, en fait, d'immigration qui continue, vous le savez, dans notre pays. C'est vrai qu'il faut pas abuser du langage. C'est vrai qu'il faut faire très attention quand on emploie des mots comme rafle, des traques, etc. C'est bien vrai qu'il n'y a pas de comparaison avec la Deuxième Guerre mondiale, avec ce qui s'est passé pendant cette période terrible. Mais tout de même, il y a l'image des justes. Vous savez bien sûr qui sont ces justes, qui sont honorés, ces Français qui ont aidé, caché, protégé des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rien à voir, bien évidemment, rien à voir. Mais tout de même, ce modèle de ces Français qui, tout simplement, au nom d'un minimum de solidarité humaine, se sont conduits comme ils l'ont fait. N'est-ce pas quelque chose qui peut servir d'exemple? N'y a-t-il aucune analogie avec ce que font ces Français un peu partout depuis déjà pas mal de temps, en soutenant les sans-papiers, les clandestins qui, en France, tâchent tout simplement de vivre moins mal que dans le pays d'où ils viennent. C'est aussi simple que ça. C'est une solidarité minimum. Il n'y a rien d'héroïque là-dedans. C'est la banalité du bien, pourrait-on dire. Et tout se passe comme si cette attitude-là, ces gestes-là, avaient quelque chose qui ne cadrait pas avec l'idée qu'on se fait de notre époque. L'idée que l'on se fait de notre époque, c'est une idée d'individus séparés, ne comptant que sur leur propre force, n'étant animés que par leurs propres intérêts. Eh ben non, on n'est pas animés que par nos propres intérêts. On est des animaux sociaux, et il y a des choses tout simplement qui, lorsqu'elles nous émeuvent et nous scandalisent, font que nous intervenons. Rien d'héroïque là-dedans, rien de véritablement politique là-dedans. Ces simples gestes sont aujourd'hui bafoués, réprimés, et c'est comme ça que c'est ressenti. Et c'est une journée très très particulière. Aujourd'hui, entre les eaux glacées des calculs égoïstes politiques, cette classe politique, de ce pouvoir politique actuel, et simplement cette solidarité
minimum des Françaises et des Français, des hommes et des femmes de ce pays. C'est dans ce sujet que nous allons jusqu'à 16h. C'est là-bas, si j'y suis, délinquant de la solidarité.
Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Fait sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte.
Monsieur le Président a dit à Monsieur le Ministre de dire à Monsieur le Préfet de faire péter les registres, de remplir les charters, les consignes sont très claires. À la porte, les métèques, on veut que des pots clairs. Les ordres sont d'user de méthodes efficaces. Appel à délation pour expulser les sales races. Paris a déposé air d'un Vichy sous l'occupation. Réminiscence d'une époque,
le fantôme s'appelle Papon.
La milice républicaine est passée à l'action. Elle a raflé les mômes dans les cours de récréation. Elle traque jusque dans les églises et les mosquées, dans les usines, les gares et les universités. Cours mon frère, cours ma sœur. Cours pour être libre, moi je sais que tu as peur. Cours dans l'indifférence du peuple de France. Ils ont voté. Et maintenant, silence.
Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Fait sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte.
Un enfant vient de naître.
La chasse est ouverte.
Une femme se jette par la fenêtre.
La chasse est ouverte.
C'est la sortie de l'école.
La chasse est ouverte.
Au berceau, à l'hôpital.
La chasse est ouverte.
Aux armes, citoyens.
La chasse est ouverte.
Du 1er au 31.
La chasse est ouverte.
Automne, hiver, printemps, été.
La chasse est ouverte.
Samedi, dimanche et jours fériés.
La chasse est ouverte.
Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Fait sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte.
Daniel, bonjour, c'est Kamel. Je suis responsable d'une communauté Emmaüs à Marseille. Hier, la communauté a été perquisitionnée par la police. Donc nous, aujourd'hui, nous fermons la communauté de Marseille-Pointe-Rouge, mais d'autres communautés du Sud-Est pour protester. Tout ça est parti d'un sans-papier qui a été arrêté dans la rue. Et donc la police a débarqué dans la communauté. Il n'y a vraiment plus de lieu de sérénité dans ce monde. Les écoles, les Emmaüs maintenant sont perquisitionnées.
Voilà, c'était un message sur le répondeur de la base. J'y suis le 18 février de Kamel, face à Touy, de la communauté Emmaüs de Marseille, directeur de la communauté Emmaüs dans le quartier de la Pointe-Rouge à Marseille, qui lui a été arrêté et gardé à vue le 16 février 2009. Ce qui contredit ce que le ministre Besson a dit ce matin sur notre radio, se voulant rassurant envers ceux qui, en France, aident, viennent en aide ou en solidarité, ou en soutien aux sans-papiers. Monsieur Besson dit et redit à quel point il est soucieux, et chez lui c'est un véritable tourment de protéger ces braves gens, ces pauvres gens que sont les clandestins, des passeurs et autres margoulins. Voilà pourquoi ses lois, voilà pourquoi sa mission, voilà pourquoi il est là. Mais en aucun cas, bien sûr, ceux qui sont solidaires ne sauraient être ennuyés. Eh bien, c'est pas ce que nous dit Kamel, que nous avons joint au téléphone il y a quelques instants.
Donc je m'appelle Kamel Fassatui, je suis responsable d'Emmaüs à Marseille. J'accueille 42 compagnons d'Emmaüs. Emmaüs, donc, c'est un lieu d'accueil de personnes qui ont vécu la rue. C'est un accueil inconditionnel, tel que l'a fait l'abbé Pierre il y a 60 ans.
Et Éric Besson, le ministre de l'Immigration, s'exprimait ce matin sur France Inter en expliquant que tous ceux qui aident de bonne foi un sans-papier ne risquent rien.
Moi, j'écoute M. Besson, je me dis, M. Besson, il est parfaitement au courant de ce qui s'est passé à Emmaüs.
sait très bien que je suis représentant d'Emmaüs à Marseille, que j'ai accueilli quelqu'un qui n'avait pas de papier, que j'ai fait une garde à vue.
Alors expliquez-moi ce qui s'est passé.
Explication. Donc un compagnon d'Emmaüs marche à Marseille tranquillement, le lundi 16 février, il se fait arrêter par la police, pas de papier, et le compagnon, Hamid, il dit « j'habite à Emmaüs ». On m'appelle, on me dit « monsieur, venez nous voir le lendemain à 11h pour un petit entretien concernant quelqu'un qui est hébergé chez vous ». Donc je me présente le lendemain donc à la police de l'air et des frontières, et en fait, on m'annonce tout de suite « monsieur, vous avez hébergé quelqu'un en situation irrégulière ». Nous vous mettons immédiatement en garde à vue, vous risquez 30 000 euros et 5 ans de prison. Donc je me suis retrouvé dans cette situation vraiment en état de choc, d'incrédulité.
Tout de suite on vous a mis en garde à vue, on vous a gardé en garde à vue.
Ah, tout de suite on m'a dit, monsieur, donnez-moi, videz vos poches, enlevez votre ceinture, vous avez le droit à un coup de téléphone, est-ce que vous êtes en bonne santé, vous êtes en garde à vue, monsieur, il y a une infraction grave qui a été constatée, et voilà, prise d'empreinte, comme un délinquant, quoi. La garde à vue a duré 6 heures d'enquête, de vraiment de questions poussées sur d'abord Hamid, c'était très rapide, hein, mais après c'était sur Emmaüs. Qu'est-ce que c'est Emmaüs? Vous vivez de quel don? Est-ce que vous avez des partenariats? Est-ce que vous avez augmenté votre chiffre d'affaires? Qui dirige Emmaüs? Etc., etc. Et puis, in fine, on m'a dit, monsieur, donnez-nous les noms des personnes sans papier chez vous, à Emmaüs. Ben, j'ai dit, ben non, on n'a pas l'habitude de donner des noms chez nous, c'est un lieu d'accueil, hein, c'est pas, on n'a pas de livret de police.
On vous a demandé de faire de la délation, de donner le nom.
Absolument, on m'a demandé le nom des personnes qui sont hébergées à Emmaüs, qui ne seraient pas dans une situation régulière. Voilà, la demande. J'ai refusé de répondre à cette demande, parce que c'est contraire à notre éthique, Emmaüs, hein, et donc ils ont décidé de perquisitionner le bureau, perquisitionner Emmaüs, voilà. Moi, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de certitude, je ne serai pas traîné devant un tribunal. Il y a une garde à vue, il y a pas de mise en examen, mais il y a une enquête. Donc, je veux dire, si on s'attaque, je veux dire, à notre manière d'accueillir, si on s'attaque à Emmaüs, je veux dire, ça a plus de sens, quoi. Ça n'a plus de sens.
Bah, vous allez aller bientôt au tribunal, là, j'imagine, devant le tribunal de Marseille.
Bah, on est en face, on est devant, on est quelques centaines, il y a beaucoup de monde, et la manifestation démarre à 13h avec donc des intervenants assez nombreux. Monsieur Besson voulait, dans la loi de 2009, la loi de finances 2009, voulait poursuivre 5000 aidants. Mmh. Nous, on lui fournit 9500. 9500 citoyens ont donné leur nom, leurs adresses, ils sont inscrits sur notre site. Pour dire, voilà, il y a des citoyens qui sont aidants ou qui ont aidé. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, poursuivez-nous. Aujourd'hui, c'est une mobilisation en disant, attention, on vit plus simplement dans un état de crise financière ou crise économique. Là, on atteint une crise morale. Regardez ce que nous pouvons faire. Nous pouvons même aller chez l'abbé Pierre, traquer le sans-papier. Vous voyez, le sans-papier, on le traque partout. Là, on franchit un pas qu'on n'a jamais vu. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'aurait jamais pu se faire pendant que l'abbé Pierre était vivant. Tout le monde a pleuré la mort de l'abbé Pierre pour louer les valeurs d'Emmaüs et de l'abbé Pierre. À Emmaüs, on fait le tri des objets, mais on ne fait pas le tri des hommes. Voilà.
Alors on sait le retentissement du film de Philippe Lioret, Welcome, sur cette histoire, sur cette loi, sur le soutien aux sans-papiers. Voilà un témoignage qui vient de Marseille, un autre témoignage qui vient, celui-là, de Calais. C'est Jean-Claude Lenoir, qui est vice-président de l'association Salam, qui vient en aide aux migrants à Calais, et qui lui dit avoir été condamné avec une dispense de peine, certes, pour aide au séjour de personnes irrégulières, et lui aussi vient contester les propos du ministre Besson qui ont été tenus ce matin sur l'antenne de France Inter. Jean-Claude Lenoir, c'est Aline Leclerc qui l'a eu au téléphone.
Donc Lenoir Jean-Claude de l'association Salam. Moi, je connais plusieurs personnes, dont moi-même, qui avons été condamnés, certes dispensés de peine, mais condamné pour l'aide des personnes en séjour irrégulière. Et donc, ça figure sur le casier judiciaire. Et c'est une condamnation, quand même, qui a nécessité un an et demi de mise en examen, sans carte d'identité, et la carte d'identité qui n'a pas été rendue suite au procès, pendant un an et demi, c'est-à-dire que c'est 3 ans de peine, sans papier, sans pouvoir quitter le territoire, sans en étant pénalisé dans la vie au quotidien.
Qu'est-ce que vous aviez fait exactement ?
Eh bien, on avait aidé, on le disait haut et fort, des migrants. Donc, à la fois sur l'hébergement, à la fois sur l'aide de trouver d'autres familles qui puissent héberger. On le faisait au vu et au su de tout le monde. Parce qu'à l'époque, en 2003-2002, à la fermeture de Sangatte, on a eu des hivers rigoureux notamment. Je veux dire, je n'ai jamais rien fait en cachette. Quand les gens dormaient chez moi, je le montrais et je le disais à la presse. Et d'ailleurs, ce qui déplaisait, je crois que le grand reproche qu'on nous faisait, c'est justement qu'on le monte au grand public, qu'on dénonce au grand public que dans cette période rigoureuse de l'hiver, on était obligé de faire ça. Et c'est ce qui dégénait. On prétendait que Sangatte, la fermeture de Sangatte avait réglé le problème qu'il n'y avait plus aucun migrant. Hier soir, ils étaient 700 au repas. Ce qui gêne, c'est qu'on dise qu'ils soient 700. Il est facile pour un ministre, quel qu'il soit, de dire qu'ils sont 50, 80, 100. Non, actuellement, ils sont 700.
Alors, ce matin, donc, sur France Inter, le ministre Éric Besson a notamment parlé de 2 bénévoles qui avaient été condamnés avec dispense de peine. Donc, c'est votre cas. Il est donc possible qu'il parle de vous. Il dit 2 bénévoles ont été condamnés avec dispense de peine pour être entrés dans la chaîne des passeurs. En clair, ils avaient transporté des fonds, pris de l'argent à des étrangers en situation irrégulière pour le porter à des passeurs.
Mais c'est absolument scandaleux. Et si vraiment le ministre a dit ça, je porterai plainte dès demain matin au tribunal. Je vais essayer d'avoir la bande radio sur laquelle il a pu dire ça et je porterai plainte. On n'a jamais été porté de l'argent à qui que ce soit. La seule chose que j'ai pu faire au niveau de l'argent, personnellement, c'est aller à la poste, chercher des sommes très modiques, de l'ordre de 45 euros, des sommes très très modiques qui ont permis aux migrants d'avoir une vie quotidienne. Alors, que la loi l'interdise et que je sois puni pour cela, je suis capable d'assumer, de me défendre et dire pourquoi je l'ai fait. Que si, monsieur le ministre, s'est permis, une fois de plus, de mentir et une fois de plus de dire qu'on a été dans la chaîne des passeurs et qu'on a apporté de l'argent à des passeurs, je porterai plainte dès demain matin. Aujourd'hui, c'est vrai que la loi est moins appliquée, c'est vrai, sauf qu'il y a des gardes à vue quotidiennes. Moi, j'ai eu 7, 8, 10 gardes à vue pour les bêtises, quoi, seulement pour des contrôles de papier. Et quand même, ce qui est quand même grave, c'est que quasiment systématiquement, et notamment les dernières fois, eh ben, on vous met à nu, on vous fouille à corps, c'est quand même du harcèlement qui va très loin, quoi, quand même. Et puis, il y a ce fameux délit d'outrage. Maintenant, comme on peut plus nous attaquer sur la loi, on feint de croire qu'on est grossier avec les policiers, qu'on les agresse, etc.
Vous, quand justement, vous êtes poursuivi pour outrage. Là, vous comparaissez en juin devant le tribunal de grande instance pour ce délit d'outrage.
Voilà, ça fait 3 fois, c'est la 3e fois que ce procès est reporté. Nous avons les vidéos, nous avons les photos, nous avons les témoignages comme quoi il ne s'est rien passé. Mais ça s'est passé en novembre. En fait, ce qui se passait, c'est que la France, avec l'Angleterre, voulait faire un charter pour ramener les Afghans en Afghanistan. Nous, on savait très bien que le dernier charter qui avait été fait par l'Australie des Afghans avait été mutilé à la sortie de l'avion, et donc on faisait des manifestations au centre de rétention pour des manifestations symboliques. Il y avait 200 policiers, des chiens, un hélicoptère qui était à 10 mètres du sol avec des torches, et voilà, et d'un seul coup, il y a des CRS qui m'ont sauté dessus, et donc on nous met de l'outrage. Nous, on a les preuves pour montrer, en fait, que c'est faux.
Quand vous me dites donc condamnation, même sans peine, mais condamnation, mise en garde à vue, même s'il n'y a pas de suite, mais quand même mise en garde à vue, rétention de vos papiers d'identité, délit d'outrage multiplié, qu'est-ce que, selon vous, quelle est la logique qui sous-tend tout ça?
Je crois que c'est un harcèlement contre les migrants. On le voit au quotidien à Calais. On peut les arrêter 4-5 fois, les mettre sous la pluie à 1h du matin à 10 km de Calais pour qu'ils reviennent à pied. Chez les bénévoles, c'est la même chose. Surtout si le bénévole dénonce ce qui se passe, ce qui est notre cas. Pour moi, c'est une atteinte énorme aux droits de l'homme, énorme à la démocratie. Et je ne me permets pas, modestement, mais à quelques ministres qu'ils soient, de jouer ainsi avec la démocratie française.
Rassemblements sont prévus aujourd'hui partout en France, vous le savez, à l'initiative d'un collectif d'associations Emmaüs, la CIMAD, Secours catholique, France Terre d'Asile, etc. Et l'objectif est de réunir les 5500 aidants, entre guillemets, dont les arrestations sont d'ores et déjà prévues dans la loi de finances pour 2009, on en a parlé. Et à travers tout le pays, d'Aix-en-Provence à Besançon, de partout, des militants bénévoles ou de simples citoyens, il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément des militants ou d'associations, se constituent toute la journée prisonniers volontaires devant des palais de justice ou des commissariats en proclamant « Si la solidarité devient un délit, nous demandons à être poursuivis pour ce délit ». Cette solidarité, elle date pas d'hier dans ce pays, et on l'a montré à maintes reprises dans les reportages de là-bas si j'y suis. On va revenir à Montreuil. C'était l'histoire des Grialets. C'est des sans-papiers qui luttaient pour avoir des papiers, tout simplement, contre cette entreprise particulièrement thénardière, on va dire. Mais là, on est à un moment avec Antoine Chao dans ce reportage où, on a gagné, c'est un bonheur, on ne perd pas toujours, et tout ça, c'est grâce à la solidarité du voisinage. Encore une fois, une solidarité non héroïsée, non toute simple, de solidarité de voisinage, cette banalité du bien dont je parlais, et ça fait du bien.
Impasse des batteries à Montreuil, c'est la fête.
Ça commence déjà.
Bon, ben bravo, hein. Alors là, les voisins arrivent.
Oui, les voisins arrivent.
Flimadi est par là?
Oui. Et juste en face.
Ah, c'est vrai, c'est vous?
Oui.
Alors, c'est la bonne nouvelle?
Oui. Hein, oui, c'est la bonne nouvelle. Ouais.
C'est Noël, quoi. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle ici pour les Grialets, comme on vous appelle?
Oui, comme on nous appelle les Grialets, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les APS.
Alors, ça veut dire quoi, APS?
APS, ça veut dire titre provisoire de séjour.
Ah.
Voilà, avant d'avoir la carte.
D'accord. Alors, ça y est, vous avez l'APS dans la poche.
Voilà, je vais vous le montrer.
Combien de temps ça fait que vous attendez?
Je ne veux pas dire 7 mois, je dirais plus de... de 8 ans maintenant, parce que voilà, dès qu'on est dans un pays, on ne demande que ça. Voilà.
Un beau papier plié en 4, préfecture de Seine-Saint-Denis, autorisation provisoire de séjour, avec votre photo.
Eh oui.
Bravo.
Non, mais c'est super, c'est super. Maintenant, on va pouvoir affronter le patron voyou, comme Grialet, parce qu'il n'y a pas que Grialet. Les patrons voyous, il y en a plein dans ces pays. On va pouvoir les affronter maintenant, et on va pouvoir descendre dans le métro tranquillement, comme tout le monde. En un mot, c'est la liberté. On va pouvoir voyager, et comme tout le monde. Donc, c'est la liberté, quoi. La liberta, comme dit...
comme dit voilà. Qui
les Espagnols, je pense.
Liberta.
Ouais. Voilà, liberta. Voilà.
Ouais, ma fille, elle s'appelle comme ça.
Ah, d'accord.
Liberta.
Ah oui, ok.
Là, on est toujours impasse des batteries devant l'entreprise Grialet.
Le Grialet, voilà. Ouais. Et là, ce soir, c'est une petite fête pour les voisins qui nous ont soutenus depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Elle nous fournit l'électricité depuis le 22 mai.
La voisine, là, voilà. Depuis le 22 mai.
Oui. Donc, ça fait 7 mois qu'on est soutenus par les voisins. Ça fait 7 mois de galère, 7 mois de tristesse. Et aussi 7 mois d'espoir et 7 mois de solidarité. Donc on ne peut pas partir sans dire merci aux voisins et aux voisines.
Flimadi, Bonza, Yagouba, voilà les... Oh ! Ça
fait un fou dans la rue. Je suis contente aussi.
Adi Yagouba, ma pauvre Julia, il va comprendre.
Ah, vous êtes voisine vous aussi ?
Oui, j'habite là.
Alors, comment ça s'est passé alors?
Ah, très bien, ouais. Pas de problème. Ouais. On n'a pas de problème.
Ah, ça va être triste, hein, non,
ah, oui, oh là là, j'ai dit, oh là là, c'est triste. Hein. C'est bien pour eux.
Ouais.
C'est bien pour eux. Je suis contente, c'est bien pour eux.
Oui.
Ah oui, il y en a du papier tranquille, il va travailler.
C'est un petit peu triste quand même, parce qu'on nous manquait.
Ça y est, il est presque maintenant.
Ouais. Vous auriez dû construire une maison ici.
Hein?
Ils auraient dû construire une maison ici et habiter.
Pourquoi pas?
Ah ouais.
Chez Grialet.
Eh, ça remonte les bretelles, ça, c'est bien, hein. Ça fait du bien quand même d'entendre ces choses-là. Les voisins qui donnent un coup de main, qui donnent de l'électricité. la municipalité aussi de Montreuil qui a soutenu cette lutte, et puis d'abord les gars eux-mêmes qui se sont battus, qui ont été têtus, qui ont tenu le coup, parce que c'est pas facile du tout, c'est pas facile moralement, c'est pas facile physiquement, c'est pas facile financièrement, c'est pas facile, c'est le grand doute. On risque à tout moment de se retrouver dans un centre de rétention. Et ouais, tout ça c'est quoi? C'est des travailleurs, ça s'appelle des travailleurs, et qui sont dans cette entreprise depuis des années, 7, 8 ans pour certains, une entreprise de démolition, démolir, c'est être exposé au plomb, c'est être exposé très très souvent à l'amiante, souci que n'avait pas tellement ce patron. Mais alors, on va dire beaucoup de mal de monsieur Grialet, mais non, c'est pas le seul, il faut pas qu'il soit... Il se sent trop harcelé ni visé. On sait très bien qu'il n'est pas le seul, qu'il y a beaucoup, beaucoup de ces patrons qui se conduisent de la même façon dans notre bel hexagone. Donc voilà, c'est la fête ce jour-là parce qu'on a gagné. On est avec Flimadi.
Alors, vous aviez déjà milité comme ça ou c'est la première fois que vous faites un combat syndical parce que vous êtes syndiqué CGT ?
Oui.
Et vous aviez déjà connu comme ça cette solidarité, cette façon de militer, de défendre ses droits ?
Non, je dirais que c'est une première fois parce que c'est la première fois que nous on fait grève. Avant, je le voyais à la télé, voilà, j'entendais la radio, mais voilà, c'est une première fois. Et depuis là, c'est parti quoi. Mais il faut dire aussi que des patrons comme lui, il y en a plein dans ce pays. Il y en a plein, les patrons voyous, qui n'embauchent que les sans-papiers, qui n'embauchent que les gens en situation de faiblesse, on va dire. Et voilà, nous, on va pouvoir les affronter. On va pas aller les chercher. Mais à partir du moment où tu vas dans une entreprise et que tu es embauché par un patron pareil, eh bien, ça sera pas la même chose. Voilà.
Comment ça se passait chez Grialet ?
C'était trop dur parce que je dirais que nous étions soumis. Nous avons tout accepté de monsieur. Nous avons même accepté inacceptable. Parce que je dirais que nous avons travaillé à la place des machines. À la place des machines, il le disait lui-même, mes gars, c'est des machines. C'est-à-dire en creusant. Et dans des conditions inimaginables, comme des travaux dans des caves avec des bougies à la pioche et aux pelles, et comme des fourmis, vous imaginez. Et on n'avait pas droit à la parole. Parce que si tu essaies de répondre, ils te disaient on n'est pas mariés, il y a beaucoup de Mamadou au foyer. Alors beaucoup de Mamadou au foyer.
Il y a beaucoup de quoi ?
Mamadou au foyer. Donc ça veut dire simplement, si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Les Mamadou, c'est le nom qu'on nous donne ici.
Ah, ils vous appelaient les Mamadou.
Voilà, voilà. Tous les musulmans, c'est des Mamadou. Tous les Africains, c'est des Mamadou. Et quand on dit tout ça, qu'ils sont racistes ou qu'ils sont méchants, les gens nous disent, mais non, c'est pas vrai, la preuve. Ils n'embauchent que des Noirs. Ah oui, d'accord, des Noirs, mais des Noirs comment ?
Comment ?
Toujours sans papier. Parce que tous ceux qui sont arrivés avec des papiers, ils sont restés juste un mois. Après, le contrat n'est pas renouvelé. Si c'est que tu as ton vrai papier... Il sait que tu as une carte de séjour vraie, et bien tu as un contrat de un mois ou trois semaines. Après, voilà, c'est pas renouvelé. Donc, c'est quelqu'un qui n'empochait que quelqu'un à qui il pouvait profiter.
En l'an 7 du nouveau millénaire, la nègrerie française fut déclarée bouc émissaire. À vos éprouvettes, blancheur en danger, et pour les négresses, au taux d'affiche. Marie-France, ne m'amadou pas, ne m'amadou pas, je ne m'appelle pas Mamadou, mon nom est Bit. Afrobeat des Noirs. Et je danse sur Love on the Beat en copulant gaiement. Marie-France, sur les terres de France, déterrons la souffrance. On ne plante pas un épouvantail sans autorisation de travail. Autorisation d'entrée. Autorisation de s'installer, autorisation de...
balayer, nettoyer, astiquer. Et maintenant, autorisation de dégager. Maintenant que la école est terminée, que les migrateurs sont allés, on accuse épouvantail de rage. Sur ces haillons brûle le commérage. Épouvantail réclame justice au nom de cette comptine métisse. Alors, Marie-France, dis-moi, que vas-tu faire de tes noirs?
Moi, quand je suis arrivée, je savais même pas que ça existait, le centre de rétention, parce qu'il est à proximité de l'aéroport, donc voilà. Ben, c'est un bâtiment, c'est des algécos, plus ou moins, entouré d'une enceinte avec des barbelés. Je connaissais pas ça de la France, et franchement, ça m'a ouvert les yeux sur ce qui se passait vraiment.
Mais je crois que ce qui s'est passé à Fontaine-Saint-Martin, c'est un peu ça aussi. Pour bien des familles, ça a été une surprise de voir qu'on en était là aujourd'hui en France. Et je crois qu'il y a une prise de conscience assez violente, parce qu'on ne s'imaginait pas tout ça. D'expulser des gens qui avaient une forte volonté d'intégration et qui, pour qui tout se passait bien, je crois que ce n'est pas le désir des Français.
Voilà, ça c'était en 2007, un reportage de Pascal Pascariello avec à Fontaine-Saint-Martin, à côté de Lyon, des gens qui, ça m'a ouvert les yeux, prise de conscience. C'est pas des militants acharnés. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple, c'est tout évident, et voilà pourquoi cette loi est si suspectée. Voilà pourquoi il y a si peu de confiance dans les affirmations du ministre. Mais qui milite, qui s'engage? Pourquoi est-ce que c'est si évident? Il y a quand même derrière ça des histoires. Dans cette solidarité, dans ces gestes de solidarité, ben oui, il y a notre histoire à tous, françaises, souvent venues d'ailleurs et de très loin. On est à Fontaine-Saint-Martin devant l'école.
Camion, hein.
Bah, expliquez-moi, là, en tout cas, on va
sortir aux Échets pour rejoindre le plus rapidement possible Fontaine-Saint-Martin. Nous irons faire un tour au CADA, c'est-à-dire le centre d'accueil des demandeurs d'asile. C'est l'ancien foyer Sonacotra, mais sont logés dans une aile toutes les familles qui ont fait une demande à l'OFPRA ou à la commission de recours des réfugiés qui attendent la réponse.
Et on va aller voir donc où habitait la famille Ali.
Voilà.
Puisqu'elles ont été, la famille Ali a été arrêtée
ensemble,
dans son foyer.
Nous étions au moment de l'arrestation, nous avons bien été une bonne douzaine, 12 à 15 membres du comité de soutien. Nous sommes arrivés sur le coup de 7h30, 8h moins le quart. Gloria avait passé un coup de fil et donc aussitôt on avait fait une chaîne. Ils ont appelé des renforts. À un moment donné, ils étaient quelque chose comme une vingtaine de gendarmes. L'arrestation a duré de 7h30 jusque vers 11h30, où finalement les Alis ont été embarqués dans le camion pour le centre de rétention. Et où tout le monde a été extrêmement choqué parce qu'on ne pensait pas que dans ce foyer, on allait arrêter sur place les gens au petit matin.
7h30.
Alors justement, vous qui intervenez, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes?
Qui je suis? Moi, je m'appelle Félix, hein. Pierre, j'aide par humanité parce que moi je suis fils d'immigrés aussi. Hein. Mon père a fait de la résistance à FTP Moy. Il a fait la guerre d'Espagne avec les républicains espagnols.
Rappelez-nous ce qu'était la Moy justement.
Les mouvements.
Les ouvriers immigrés, c'est ça, hein?
Oui, qui étaient dans la résistance. Mon père c'était un Italien, né en Allemagne.
Italien, né en Allemagne.
En Allemagne, et ses parents travaillaient dans des briqueteries en Allemagne. Puis après, ils sont venus en France et ils sont venus dans les années 1920 et quelques. Et j'ai des photos, ils étaient pieds nus. Mon papa, il était conducteur de travaux après à Lyon. dans la maçonnerie. Hein. Et il a fait, bon, après il était dans au Parti communiste italien, ils ont fait de la résistance, ils ont fait la libération de Nice, mon père. Ils m'ont déclenché avec les FTP de là-bas. Mon père, il faisait partir les soldats italiens dans la résistance. Voilà. Donc il est mort, il avait 36 ans. Il avait laissé une veuve avec trois enfants, dont un fils et deux filles. Moi, j'avais 5 ans, ma petite sœur 3 ans et la grande 13 ans. Bon, okay, je suis retraité. Bon. Je travaillais, j'étais employé à la Générale des Eaux. Je faisais l'entretien, la maintenance des réservoirs et du matériel de pompage.
Voilà le foyer.
Voilà le foyer où nous arrivons. Là.
Donc là, on rentre dans le foyer, voilà. Là où habitait la famille. Donc là, on rentre, c'est quoi ici, Félix? De la chambre 74 à 78.
C'est là qu'ils étaient. Là. Alors, ils ont des chambres.
Un appartement regroupe plusieurs chambres.
Ah ben oui. Et puis là, ils ont une salle d'accueil. D'ailleurs, le four que vous voyez là.
Le four
leur appartient.
Ah, il y a encore toutes leurs affaires?
C'est à eux. Non, on a enlevé. Mais il y a des affaires qui sont restées. Ça, on ne pouvait pas y emmener là-bas. Hein. Plein de choses. C'est ça.
C'est une petite voiture pour enfants. Ça vous...
Ouais.
Félix, expliquez-moi.
Mais je ne peux pas. C'est trop dur. C'est dur. Je ne sais pas, les gens, ils sont comme tout le monde, ils ont le droit de vivre.
Et qu'est-ce qui vous a ému autant, c'est le fait de voir encore des...
De voir ça, puis se rappeler ce qui s'est passé. Ils sont allés là-bas, hein, ouvrir.
Voilà. Vous parlez de la police, vous étiez là
le... On était là le matin, on m'a appelé le matin pour venir. Puis ça fait de la peine, gros. C'est pas normal, gros. On les connaissait bien, puis je suis pas bien. Voilà. C'est tout.
D'accord, vous étiez voisine avec Gloria?
Oui.
Il y a personne qui habite dans
pas personne.
Personne n'habite dans l'an.
Ils ont changé les portes, hein.
Oui, changé.
Changé les portes, voilà.
D'accord, donc j'imagine c'est fermé, hein.
C'est tout fermé. Oui.
C'était là.
C'est une clé.
C'est la première fois que vous revenez depuis l'arrestation?
Non, je suis revenu, mais bon, c'est...
Une fois pour déménager les affaires de Gloria. Mais c'est vrai que c'est plus la même chose que quand on venait au cadavre. Avant, on venait joyeux, on venait les voir, on mangeait un peu avec eux, on discutait. Là,
moi, je vous disais, moi, ça me fait mal. Non, mais c'est vrai. Ah ouais. Je suis nature, moi. Hein. Je suis comme ça. Ma mère, bon, quand ils sont venus, mes grands-parents du côté de ma mère, ils sont venus parce qu'ils ont été travailler dans les mines de fer. Hein. Et ma mère travaillait dans le textile. Et bon, comme mon père a fait de la résistance... Non, ma mère, tous les 10 ans, elle allait tamponner sa carte aux affaires... Enfin, au truc des étrangers, à la préfecture, hein. Voilà. C'était pas pareil. La vie était pas la même. Là, c'est plus dur. Sarkozy qui se dit... immigré hongrois, qui vient... Faut regarder derrière lui, pourquoi il est venu aussi. Pourquoi? Et puis... Ces gens, ils sont là, c'est pour vivre. Ils font de mal à personne. Je sais pas, on a le droit de vivre. Travailler, c'est de vivre. Voilà.
Comment ça se fait que vous étiez là le jour de l'arrestation?
Parce qu'on m'a appelé.
Parce qu'en fait, c'est...
On a un petit réseau qui fonctionne, hein.
Alors, on a fait un premier parrainage, c'était début juillet 2006, hein, c'est ça. Donc là, à partir de ce moment-là, c'était les premiers qui ont eu des problèmes, qui ont eu des refus de recours auxquels ils ne s'attendaient pas. Et donc, on a fait un parrainage, il y avait un comité de soutien qui s'est mis en place à l'école de Fontaine-sur-Saône, c'était le premier. Et à partir de là, on est venu régulièrement les voir. Puis les voyants, on a rencontré les uns, rencontré les autres. Puis après, on est quand même via une bonne vingtaine, rien que dans le secteur, à se relayer. Et quand ils ont refus de la commission de recours... Ben...
Alors restent ceux qui font le boulot. Hein, il faut, bah oui, ceux qui accompagnent, ceux qui escortent, ceux qui arrêtent. Ses clandestins, ses sans-papiers, ses parents, ses enfants, des fois des tout-petits-enfants, et qui doivent les reconduire. Témoignage.
J'ai exercé la fonction d'escorteur de 2003 à 2006.
ça m'est arrivé de souhaiter que la personne crie, se roule par terre pour descendre de l'avion, parce que ces personnes ne méritaient pas d'être expulsées. Ce sont des personnes qui se conduisaient extrêmement bien. Bon, leur seul délit, c'était de ne pas avoir de papier et de travailler clandestinement. Et encore, comme on est soumis à un objectif, je pense qu'on ne regarde plus vraiment les dossiers au cas par cas et qu'on prend n'importe quelle personne qui n'a pas de papier sans se soucier de sa situation sociale, familiale, et on l'expulse pour atteindre un chiffre et pour mettre un bâton dans une case. Au départ, on pense que on va découvrir d'autres pays, d'autres populations, d'autres civilisations, et on s'aperçoit très vite que c'est un travail qui est assez ingrat à effectuer, puisque on peut être amené à expulser des gens qui mériterait de rester ici.
Vous pouvez m'en parler, justement?
Alors, c'était une personne que nous devions conduire à Amsterdam et mettre dans un avion, depuis Amsterdam, la mettre dans un avion pour l'Amérique du Sud. Donc, cette personne, c'était une mère de famille qui était expulsée avec sa petite fille de 8 ans, également son fils, qui devait avoir environ 5-6 ans. Donc là, je peux vous dire que ça vous cause un réel problème de conscience quand vous voyez la maman qui ne comprend pas ce qui se passe, quand vous avez la petite fille qui vous sert d'interprète, petite fille qui est bien intégrée dans la société française, qui parle couramment le français, qui va à l'école, une petite fille de 8 ans qui s'occupe des papiers de sa maman, tout ce qui est administratif, et cette petite fille qui vous demande « Mais pourquoi ? Pourquoi, monsieur ?» Parce que cette petite fille ne comprend pas pourquoi on l'enlève. Elle est arrivée ici en France toute petite. On l'enlève de son école. Elle a ses camarades, ses voisins, ses amis, sa maîtresse. Et là, elle ne comprend vraiment pas pourquoi les policiers l'expulsent. Donc là, je peux vous dire que vous vous sentez très très mal. J'ai des enfants et à l'époque de cette mission, j'avais une petite fille du même âge. Et là, je pense que ça ne fait pas partie vraiment des attributions de policiers d'emmener une petite fille comme ça avec sa maman. Ça, expulser des enfants, c'est un sale boulot. Un sale boulot. C'est des événements de votre vie en tant que policier que vous ne pouvez pas oublier. C'est des choses qui vous marqueront toute votre carrière.
Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça?
Moi, j'ai quitté ce service.
Vous êtes arrêté de faire ce boulot-là?
Oui, j'ai arrêté d'effectuer ce travail. Si vous avez un minimum de conscience et un minimum de réflexion, lorsque vous y pensez, vous vous dites « mais c'est pas possible, pourquoi j'ai fait ça ?»
Qu'est-ce que vous gardez en tête?
Et cette petite fille nous a montré au cours de ce voyage ses dessins, ses cahiers d'école, etc. À partir de ce moment-là, vous réfléchissez et vous vous dites finalement, ce boulot, c'est pas pour moi. J'effectuais cette mission en traînant les pieds, dès le départ. Nous étions 3 escorteurs et nous avons traîné les pieds. Nous avions pas envie de les mettre dans cet avion. Nous n'avons pas vraiment d'alternative. Nous sommes obligés d'effectuer cette mission. La seule chose que nous pouvons faire, parfois, c'est indiquer à l'expulsé le mode opératoire pour se faire descendre de l'avion.
Vous, Laurent, ça vous est arrivé, ça?
Ça m'est déjà arrivé de dire à une personne de faire du scandale dans l'avion pour qu'elle ne soit pas expulsée. Voilà.
Merci à tous et à toutes. C'était un reportage avec Pascal Le Pascariello, Aline Leclerc et Antoine Chao. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission et faire les commentaires que vous souhaitez, ainsi que sur là-bas.org, même jeu, commentaires possibles et souhaités et attendus à la technique aujourd'hui. Cédric Lalanne et Florent Layani, Koye Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry, et Agnès Lebot attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, c'est-à-dire au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.